au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard-Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. L'original n'est pas extravagante. Il vous est sans doute arrivé en regardant la dernière page d'un roman, pas l'un de dernier paru, mais publié il y a au moins une cinquantaine d'années déjà, de lire cette indication qui semble un peu mystérieuse. Il a été tiré de cet ouvrage 35 exemplaires sur Vanin pur chiffon des papeteries Lana, dont 25 exemplaires numérotés de 1 à 25 et 10 exemplaires hors commerce numérotés de HC1 à HC10, le tout constituant l'édition originale. Original, avec un E final indiquant le féminin. Un maître mot pour tous les amateurs de livres. À l'occasion de la rentrée littéraire, nous pouvons faire le point sur l'histoire de ses premières impressions. Au XVe siècle, dès l'apparition de l'imprimerie, les amateurs collectionnaient déjà les premières impressions des classiques qu'ils appelaient les éditions Princeps. On parle ensuite de première édition. À la fin du XVIIIe siècle, la Convention tenta de définir l'édition originale en désignant l'édition authentique et en accord avec l'auteur afin d'établir une jurisprudence pour les temps futurs. Original correspondait à honnête, à véritable. À l'époque, certains libraires, notamment en Belgique, ne s'embarrassaient pas de scrupules et imprimaient des ouvrages sans autorisation des auteurs, lançant ainsi sur le marché des contrefaçons. Cette pratique se poursuivit encore jusque vers le milieu du siècle dernier. Il nous faudra encore distinguer l'édition originale de l'édition définitive d'un texte, ce qui est après tout assez facile à admettre, à vérifier, grâce aux dates de parution figurant sur les pages de garde. Certains auteurs n'ont cessé d'apporter des corrections et des modifications à leurs œuvres. Ronsard retravaillait constamment ses poèmes. La Bruyère présente de 1688 à 1699 9 éditions des caractères qui s'améliorent d'une à l'autre. Balzac lui-même était un correcteur impénitent et seule édition complète de ses œuvres imprimée par Ousio en 20 volumes de 1842 à 1855 peut être considérée comme définitive. Quoi qu'il en soit, dans notre langage aujourd'hui, original désigne les exemplaires d'une première édition imprimée sur grand papier et numérotée, les autres exemplaires étant considérés comme ceux de l'édition courante, par conséquent de moindre valeur. Cette notion d'original fut institutionnalisée vers la fin du XIXe siècle. Les éditeurs imprimaient quelques exemplaires pour leur seul plaisir, sans but commercial, sur papier de Hollande ou sur papier de Chine, qu'ils se réservaient avec l'auteur. Ces grands papiers permettait d'obtenir une meilleure qualité d'impression, essentiellement des gravures. Et les bibliophiles virent là une nouvelle occasion de collectionner et rechercher ces exemplaires hors commerce. Les libraires ne manquèrent pas de les signaler aux éditeurs, et nous connaissons la suite, et original devint synonyme de grand papier numéroté. L'on put voir fleurir au recto des pages de garde des mentions inscrites en Italie comme celle-ci pour « Histoire incertaine d'Henri de Régnier », qui parut Mercure de France en 1919, il a été tiré 59 exemplaires sur Chine, numérotés à la presse de 1,59, 477 exemplaires sur Hollande, numérotés à la presse de 60 à 536. La première édition de cet ouvrage a été tirée à 1320 exemplaires, sur papier vergé pur fil des papeteries d'Afuma, savoir 1295 exemplaires numérotés de 537 à 1831, 25 exemplaires hors commerce marqués à la presse de A à Z. Ici, le bibliophile préférera l'un des 59 sur Chine, se contentera éventuellement de l'un des 417 sur Hollande et négligera les papiers vergés pour examiner l'un des 25 hors commerce. On dit couramment qu'un exemplaire idéal pour un bibliophile français est une édition originale, imprimée sur le plus grand papier, tirée dans le plus petit nombre, portant un envoi de l'auteur à une personne connue, enrichie d'une lettre de l'auteur évoquant l'ouvrage, éventuellement d'une lettre de toute personne directement intéressée par l'ouvrage, le tout étant couvert par un relieur renommé qui l'a signé. Certains auteurs, notamment au début du siècle dernier, on multiplie les petites éditions rares, d'autant plus appréciées qu'elles étaient parfois illustrées par un peintre qui devint célèbre par la suite. Ainsi, le premier livre publié par Apollinaire est L'Enchanteur pourrissant, 1909. Il est aussi le premier ouvrage illustré par Derain, 32 gravures sur bois, et le premier édité par Dénonoré Canveller, le pionnier du livre d'artiste et le découvreur des peintres cubistes. Cet enchanteur pourrisson a été tiré à 106 exemplaires, dont 25 sur Japon. Et à l'époque, ni Apollinaire, ni Derain, ni Canevalère n'étaient connus. Le second recueil des poèmes d'Apollinaire est l'un des plus connus, Le poète assassiné, chez Stock en 1910. Il n'a pourtant pas bénéficié de grand papier, pas plus que le premier recueil de Huysmans, Le drageoir aux épices. Celui-là, imprimé à compte d'auteur, sorti en librairie le 10 octobre 1974, on prétend qu'il n'en fut vendu que 4 exemplaires. Bon, Huysmans se rattrapa depuis. Robert de Montesquieu est aussi une aubaine pour les amateurs. Il a publié près d'une trentaine de plaquettes imprimées sur des papiers différents et un nombre d'exemplaires réduit. Il n'hésitait pas à les envoyer à ses amis, à ses nombreuses relations, les agrémentant de dessins, de dédicaces sous forme de poèmes. Pierre Loti avait reçu un des premiers numéros du Chancelier de Fleurs, 1907, à Nord Commerce. Et l'auteur de Pêcheurs d'Irlande écrivait un jour à Montesquieu pour se plaindre de ne pas avoir reçu son livre majeur-mineur et lui demander de lui faire parvenir un autre exemplaire, le plus vulgaire. Sans doute par discrétion, afin de ne pas tarir le stock de grands papiers de l'auteur. Le Grand Maulne, paru en 1913 aux éditions Émile Paul. Le premier tirage connut un tel succès qu'il fut vendu en quelques semaines. On pensait qu'au grand papier, aucun grand papier ne devait accompagner. Celui-ci totalisant 15 000 exemplaires tous numérotés. Les bibliophiles retinrent pour eux les 1000 premiers, mais le numéro 1001 entrait dans la catégorie ordinaire. Or, les bibliophiles belges, très minutieux, ont examiné des grands papiers que l'on considérait provenir d'une édition postérieure. Les 15 exemplaires sur Japon et les 20 sur Hollande existants constituent bien l'édition originale. À cela, il convient d'ajouter quelques autres exemplaires sur papier vert à grande marge et sur alpha satiné réservé à l'auteur. Valérie Larbeau, lui aussi, une aubaine pour les bibliophiles. « Je désire avoir de jolies éditions de luxe de mes petits traités avant de les publier pour le grand public en un seul volume », devait-il écrire en 1926 à son éditeur hollandais Alexander Stolz. À l'époque, il avait déjà fait paraître toutes ses grandes œuvres, Aubin Abof, Fenama Marquez, Enfantine et Amant, heureusement. Le premier, paru pour la première fois sous son long titre « Poème » par un riche amateur ou œuvre française de M. Barnabov, précédé d'une introduction biographique en 1908. Ceci sous une couverture rose bordée d'une large bande verte. Un petit livre devenu introuvable. On ne saurait évoquer Larbeau sans citer Paul Morand. Il est l'un de ceux qui, dans les répertoires bibliographiques, occupe la plus grande place. Selon les travaux de Georges Place, on dénombre 100 ouvrages différents publiés par Paul Morand, auquel il convient d'ajouter son premier essai littéraire, « Les extravagants », composé vers 1911 et sorti chez Gallimard en 1986. Son premier livre publié est un recueil de poèmes, « L'Emparque », au sang pareil en 1920. Il a été tiré à 22 exemplaires, numérotés et illustrés par un dessin surréaliste de l'auteur. Et le premier de ce recueil de nouvelles, « Tendre stock », sorti chez Gallimard en 1921, avec une insigne faveur, une longue préface signée par Marcel Proust. Il a bénéficié, non pas Marcel Proust, mais l'ouvrage, d'un tirage de tête de 120 exemplaires réimposés au format in-carto survergé de la Fuma Navarre. Nous sommes plus mal lotis avec les écrivains d'aujourd'hui. L'usage du grand papier tend à disparaître complètement. L'évolution des techniques ne permet plus d'ajouter, comme autrefois, une rame supplémentaire de papier de luxe. À moins de faire recomposer et spécialement réimprimer des exemplaires avec des coûts multipliés par 6 ou 7 fois plus élevés, à l'exception de quelques petites maisons d'édition qui tiennent à maintien la tradition, rares sont les grands qui le font, ou du moins sur la pointe des pieds. Flammarion, par exemple, n'honore que ses académiciens. Jean Dutour, reprenant l'idée de Gide, la seule que je lui ai prise, affirme-t-il, possède tous ses titres imprimés sur grand papier de couleur. Il est bleu pour ceux sortis chez Gallimard, vert chez Flammarion. Cette dernière couleur n'est pas liée à sa qualité ni mortelle, mais à la disponibilité de papier de son éditeur. La NRF est sans doute la seule maison à pratiquer sur une plus grande échelle le tiré à part, essentiellement pour les titres des auteurs confirmés. On n'imagine pas un Michel Déon, lui-même bibliophile, sans grand papier. L'édition de tête du premier homme, le dernier ouvrage d'Abel Camus, lui, a eu droit à 61 exemplaires sur Verger Blanc de Hollande et 71 sur Pur Chiffon Lana. Ces 32 exemplaires ont été vendus dès le premier jour de la sortie du livre. Juste retour des choses, l'étranger n'avait pas en 1942 bénéficié de grand papier. Les bibliophiles considèrent que les exemplaires de l'original de l'étranger sont ceux marqués par le sigle SP du service de presse. Quel subterfuge devra-t-on désormais utiliser face aux livres contemporains dépourvus de tirage sur grand papier pour désigner original ? Peut-être en numérotait quelques-uns suivis de la mention haché hors commerce. Ainsi, papier mécanique et numérotage entreraient en bibliophilie comme une débutante ferait son entrée dans le monde dans une robe de confection.